Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Julien de Rubempré. Julien de Rubempré, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Julien, nous allons nous rendre à Rome, vous et moi, j'allais dire, vous en étudiant la Rome antique et moi personnellement, je vous parlerai de la papauté contemporaine. Vous avez sélectionné pour nous aujourd'hui trois livres, Espécuaire de Mary Bird, Spartacus de Yann Le Boeck que nos auditeurs connaissent et enfin Les Derniers Jours, un livre magistral de Michel de Gégère qui vient d'être réédité dans la collection Tempus et vous avez souhaité, Julien, appeler cette chronique Splendeur et misère de la Rome antique.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je dédie cette chronique à celles et ceux qui se sont endormis en cours de latin, à celles et ceux qui ont vécu d'interminables soirées à prendre des pages et des pages de déclinaisons, et aussi des dizaines de dates d'histoire romaine, pour qui a eu le bonheur, si j'ose dire, de faire de l'histoire antique. Oui, je vais vous tenter de vous réconcilier avec cette Rome antique qui ne cesse de nous fasciner au-delà des bancs grinçants de l'université, dans les librairies bien sûr, mais aussi au cinéma et à la télé. Notre époque postmoderne, qui a cru pouvoir vivre sans héritage, redécouvre peut-être l'un de ses legs les plus précieux, qui est la civilisation gréco-latine. Je vais donc commencer par présenter ces trois ouvrages qui, chacun à leur manière, éclairent cette histoire de Rome d'un genre nouveau. Et donc, je vais commencer, si vous le voulez bien, par Espécuaire.
Espécuaire, cher Julien, qui signifie ?
Senatus populusque Romanus.
C'était la devise de Rome ?
Oui. Et qui montrait l'alliance justement du Sénat et du peuple romain. Voilà, je traduis pour nos auditeurs. Alors, si je vous dis que ce livre parle à la fois de la vie dans les bars à Rome, il y a même un chapitre sur la nourriture à emporter lors de la Rome antique, et il y a aussi des choses moins triviales, évidemment la fondation légendaire de Rome par Rémus et Romulus, jusqu'au 3e siècle avec l'édit de Caracalla, qui donne la nationalité romaine aux étrangers. Voilà la période que ça couvre et l'ensemble des thèmes que ça couvre. C'est un livre d'une densité et d'une richesse assez incroyable, dont la lecture n'est...
Très accessible, c'est.
Très, très accessible, très intéressante, c'est très documenté, et ce n'est pas lourd. Voilà. C'est limpide, voilà. Et on reconnaît la patte britannique de l'auteur, voilà, ça coule de source, c'est très structuré, c'est très intéressant. Donc on y croise de grandes figures, de grands auteurs déjà, Polybe, Suétone évidemment. On y voit les grandes figures historiques que sont César, Auguste, Néron. Et un grand focus est fait par le Cicéron qui revient comme un leitmotiv qui a été le grand témoin de son temps avec sa fameuse adresse à Catilina que tout le monde connaît évidemment. Quosque tandem abutere Catilina patientia nostra, jusqu'à tant Catilina abuseras-tu de notre patience. Voilà, je n'ai pas été un très bon élève en version latine, vous m'excuserez. Et donc, Mary Bird retrace toute l'histoire de Rome, les rois évidemment, le terrible face-à-face avec Alexandre le Grand, les empereurs de Pompée le Grand, jusqu'à Auguste évidemment. Il y a aussi des grands phénomènes de société qui sont scrutés, analysés avec parfois beaucoup d'humour et beaucoup de distance, je dois dire. Et on a une histoire, si vous voulez, des perceptions de grandes thématiques, comme par exemple, qu'est-ce que la naissance sous Rome ? Qu'est-ce que la mort sous Rome ? Comment aborde-t-on le deuil sous Rome ? Évidemment, le monde du travail. Et j'ai été... une anecdote m'a beaucoup amusé, donc elle est page 436, qui concerne cette légende qui voudrait que les empereurs deviennent des dieux une fois morts. Et une comète dans le ciel, selon les historiens, a par exemple authentifié ce qu'on appelait l'apothéose de Jules César. Et donc, Suétone rapporte que Vespasien, se sentant défaillir, aurait dit « je crois que je suis en train de devenir un dieu ». Voilà, cette anecdote m'a beaucoup amusé. Et donc, voilà. Le livre se termine sur la naissance du christianisme, parce que personnellement, ça a toujours été pour moi un mystère de me demander pourquoi le christianisme a pu se répandre dans Rome aussi facilement, d'un point de vue assez philosophique d'une part, et en fait, je peux pas donner la réponse de l'historienne, mais elle montre quand même que en ayant développé un réseau de communication assez vaste et développé, l'Empire romain s'est dans un sens donné pas la mort, parce que l'apport de la religion chrétienne, c'est un symbole de vie, mais a pu faire circuler des hommes qui ont apporté une foi nouvelle pour régénérer une terre. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc j'invite évidemment les lecteurs à découvrir ce livre magistral.
Ce qui sera une thèse d'ailleurs reprise par, bien plus tard par Léon le Grand, donc pape du 5e siècle, où il montre très bien que Rome se régénère grâce au christianisme.
Voilà, c'est ça. A fini à peu près avec ces mots-là.
Alors, deuxième livre, qui cette fois est une, non pas une biographie, mais plutôt une étude, une monographie consacrée à Spartacus, qui est un personnage un peu incontournable de notre vision précisément romantique de Rome, parce que Spartacus symbolise la révolte.
Voilà, alors, Yann Le Boeck, donc, que les auditeurs de Storia Voce connaissent très bien, consacre donc cette étude sur Spartacus en tant que chef de guerre. Alors, nous avons le fameux face-à-face avec Sylla, donc l'autocrate, ou pour le moins une figure autoritaire. Et donc, c'est cet affrontement avec Spartacus qui a eu lieu, si on peut le situer, entre moins 73 et moins 71. Alors, cher Christophe Dicas, je vais vous décevoir. La figure de Spartacus n'a pas grand-chose à voir avec le film de Stanley Kubrick et l'interprétation de Kirk Douglas. Et encore moins, et là, je vais encore plus vous décevoir, avec la comédie musicale d'Elie Chouraki en 2004.
Ça ne me déçoit pas du tout, et ça ne m'étonne pas du tout.
Voilà, alors, Yann Le Boeck, dès son introduction, hein, prend le parti d'aller contre cette vulgate marxiste qui voudrait que Spartacus soit le héros des opprimés qui serait annonciateur des révolutionnaires futurs. Donc, c'est un ouvrage, j'ai envie de vous dire, c'est un ouvrage scolaire, mais dans le bon sens du terme. Le Boeck part d'une méthode qui est, c'est carré, voilà, il y a un thème, il y a un argument, il y a un exemple et une conclusion en fin de chapitre. C'est assez, voilà, c'est très clair, c'est, encore une fois, c'est très limpide, très bien construit. Et il y a un examen qui, vraiment très minutieux des sources, donc on retrouve encore les grandes figures que sont Suétone, Tacite, César, bien sûr, Salluste, Tite-Live. Et donc on a un portrait se dessine de ce fameux Spartacus, donc qui a été né en Thrace, la Thrace qui a été une conquête romaine aux alentours de moins 93. Spartacus qui a été vendu comme esclave, qui a été gladiateur à Capoue. Et Le Boeck insiste bien sur l'absence de formation militaire de Spartacus. C'est quelqu'un qui n'a aucune formation militaire, mais qui arrive à lever une armée. Et aussi, à la différence des clichés qu'on a de lui, qui sera un homme bon, voilà, l'incarnation de la lutte des opprimés, etc. C'était quelqu'un, mais encore une fois, il faut se remettre avec les mœurs de l'époque, et qui était assez cruel avec l'ennemi et aussi avec ses compagnons. Le Boeck nous parle, nous décrit voilà, ces crucifixions de soldats, par exemple, pour donner l'exemple, et c'est assez effrayant. Et donc, cette absence de formation militaire, elle se voit parce que Spartacus combattait avec ses hommes, alors qu'un chef de guerre antique doit être à l'arrière pour avoir une vue d'ensemble, pour dominer son sujet. Et Spartacus combat, et alors ça dénote surtout son... C'était quelqu'un de vraiment de très très courageux, c'est indéniable, et qui a semé la terreur dans tout le pays. Si vous voulez, c'était un peu le Jacques Mesrine de l'époque. Hein. Il incarnait voilà, cette figure un peu des opprimés, et qui semait la terreur partout où il passait, donc c'était assez particulier. Et... il montre surtout que Spartacus n'a jamais voulu abolir la condition d'esclave durant l'Antiquité. Tout au plus, il voulait améliorer voilà, la condition des gladiateurs, qui était la strate la plus basse de la société. Voilà.
Alors, je vous laisse, bien évidemment, la paternité de l'analogie entre Jacques Mesrine et Spartacus. Et passons au livre de Michel de Gégère, Les derniers jours, un livre paru d'abord aux Belles Lettres, puis qui vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Donc, Les derniers jours, comme le disait Valérie, les civilisations sont mortelles. Et l'Empire n'a pas échappé à la règle.
Oui, exactement. Et on a ce beau, comment dire, ce bel effondrement, j'ai envie d'employer un oxymore, qui est résumé par la couverture des derniers jours aux belles lettres, qui est simplement quelque chose d'assez sobre, qui est une fissure qui annonce le morcellement de l'Empire. Alors, de Gégère, là, cette fois, on est dans l'Antiquité tardive avec de nouvelles figures, donc on quitte celle que nous avons connue il y a quelques temps. On est avec Théodose, Attila, Aetius, on a l'irruption des Goths en 376, on arrive jusqu'en 410, le sac de Rome. C'est une histoire militaire, politique, diplomatique et économique de la chute d'un empire. Je ne vous cache pas que, à la différence par exemple des spécuaires, qu'ici nous avons un livre particulièrement exigeant, très dense, avec beaucoup d'informations, mais on a un résumé... Je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il s'agit ici pour l'auteur de... C'est l'œuvre d'une vie, c'est complet, c'est dense, c'est riche, c'est parfois complexe. Donc voilà, il nous montre... je ne peux pas résumer ces centaines de pages et de faits qui nous sont rapportés, mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est... Qu'est-ce qui est démontré, c'est l'augmentation de ces populations germaniques à l'intérieur de l'Empire romain. Et Auguste, par exemple, qui refuse de civiliser la Germanie. Gégère fait ensuite un chapitre pour nous parler d'un engrenage, et parce que l'Empire se divise, et tout cela se conjugue à une crise démographique et avec une immigration assez importante. Il y a aussi tout un questionnement sur la barbarisation des esprits et... inévitablement, même si c'est un peu anachronique, un questionnement sur l'identité romaine. Alors, il y a un focus de fait sur, entre guillemets, hein, c'est le titre d'une sous-partie, sur les larmes de Saint Jérôme après le sac de Rome. Et là, je vais vous lire, c'est un passage extraordinaire. Saint Jérôme écrit « Ma voix s'arrête et les sanglots étouffent les paroles que je dicte. Elle est prise, la ville qui a pris l'univers entier. Que dis-je ? Elle périt par la famine avant de périr par le glaive. Nulle contrée qui n'ait des Romains exilés. On a vu tomber en cendres et poussières des églises consacrées. » Voilà. Alors, ce que l'auteur nous montre, c'est que c'est un empire devenu trop grand, je cite, pour susciter l'attachement. Et parce que, et là, c'est ce qu'il nous montre, et c'est, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que l'empire romain, tel qu'il a été conçu, était accepté par l'ensemble de ses habitants, d'où qu'ils viennent, car ils permettaient un certain bien-être. Mais une fois qu'il a été ébranlé, ce qu'on appelait la Pax Romana n'a plus été permise. Donc du coup, il s'est disloqué assez facilement. Voilà. Alors, je vais conclure, hein, parce que nous évoquions les splendeurs et les misères de Rome. Nous pourrions aussi affirmer que l'histoire romaine est faite de vérités et de légendes, puisque même sa fondation est de l'ordre de la mythologie. Nous ne serons pas, malgré tout, les Michel Onfray de la Rome antique, en ayant des évidences les plus frappantes pour exprimer des thèses plus ou moins farfelues. L'archéologie, la lecture des textes et l'examen des sources font avancer notre connaissance de l'Antiquité, chaque jour un peu plus, et nous informent sur l'état de notre propre civilisation, et c'est le parallèle que je voulais dresser avec les derniers jours. Est-ce que notre civilisation suscite encore beaucoup d'attachement ?
Eh bien, merci beaucoup, Julien. Splendeur et misère de la Rome antique. Je me permets de passer à la splendeur et à la misère de la Rome contemporaine. Pour ma part, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi deux livres d'actualité, deux livres consacrés au pape François. Mais comme vous le savez et comme vous vous en doutez, je vais essayer de relier cette actualité avec l'histoire de l'Église. Ces deux livres ont été écrits par des vaticanistes. Le premier est signé Virginie Riva. Il s'intitule « Ce pape qui dérange ». C'est un ouvrage paru aux éditions de l'Atelier. Alors, qui est Virginie Riva ? Virginie Riva est correspondante à Rome, hein, chez nos confrères d'Europe 1, diplômée de sciences politiques. Elle a consacré sa thèse sur la fameuse question des racines chrétiennes de l'Europe, qu'elle a étudiée à travers trois pays, trois exemples, l'Italie, la France et la Belgique. Elle a coécrit en 2010 avec Bérangère Massignon « L'Europe avec ou sans Dieu », un ouvrage qui n'est absolument pas un essai, mais plutôt une photographie très précise, on va dire même très universitaire, de la place des religions en Europe, une référence à mon sens pour le présent et l'avenir.
Et donc votre deuxième ouvrage ?
Le deuxième ouvrage, lui, est consacré au pape François. donc consacré toujours au pape François, pardon, c'est celui de Jean-Louis Lavessière. Il s'intitule « François dans la tempête » et il est paru aux éditions Salvator. Jean-Louis Lavessière est un autre vaticaniste. Il a passé 5 années à Rome en tant que responsable de l'AFP. Alors ce n'est pas du tout son premier ouvrage consacré au chef de l'Église catholique. Après la renonciation de Benoît XVI, il avait publié en 2014 aux éditions Le Passeur « De Benoît à François, une révolution tranquille », un ouvrage qui soulignait les éléments de continuité entre les deux pontificats. Et enfin, en 2015, deuxième ouvrage, il avait écrit Le Pape François, un combat pour la joie, toujours chez le même éditeur.
Donc d'emblée, on a compris que l'atmosphère a changé à Rome.
Alors tout à fait, Julien, ce pape qui dérange ou bien François dans la tempête, les titres de ces deux ouvrages sont absolument sans ambiguïté et c'est en cela qu'ils sont importants parce que pour la première fois en France, deux livres prennent acte d'une situation que nous, Français, regardons, j'allais dire, un peu de loin. Notre vision du règne de François est une vision assez somme toute médiatique, simpliste, celle du pape populaire, celle du pape des petites phrases transgressives, parfois un peu provocatrices. Vous le savez, les médias adulte, ce pape, qui transgresse les règles établies à l'ombre de la basilique Saint-Pierre. Or, Virginie Riva tient, je la cite, à dépasser le discours médiatique bienveillant à l'égard de ce pape qui ne rend pas compte de la réalité de son dessein. Fin de citation. Alors, pape radical ou pape révolutionnaire, il existe une nuance qui me semble importante, tant l'idée de révolution est un terme, à mon sens, trop laïque pour décrire une réalité ecclésiale. Je lui préfère le terme de réforme, qui d'ailleurs correspond davantage à la longue histoire de l'Église, faite de crises, de renaissances, mais aussi d'ombre. Alors Virginie Riva nous explique au fil des pages quelle est la radicalité de François à travers ses différentes réformes, réforme de la curie, réforme des structures financières du Saint-Siège, nécessité d'une lutte sans merci contre les crimes de pédophilie dans l'Église. Bref, les sujets sont très nombreux.
Alors ils sont nombreux, mais est-ce qu'ils sont nouveaux ?
Alors, vous avez raison de poser la question, puisqu'on sait que Benoît XVI a crevé bien des abcès sous son pontificat, d'ailleurs Virginie Riva l'écrit très bien, que l'on songe à la pédophilie, mais aussi à la création d'une structure d'audit des comptes du Vatican et du Saint-Siège. Mais avec François, le style, vous vous en doutez, est bien différent. Benoît XVI le disait lui-même dans son dernier ouvrage, il n'est pas un gouvernant. François, lui, tout en rejetant les attributs du pouvoir pontifical, n'hésite pas du tout à gouverner d'une main de fer. Virginie Riva, par exemple, évoque, je la cite encore, le caractère monocratique de ses décisions. Ce n'est pas le moindre des paradoxes chez ce pape qui refuse de faire le pape, qui ne cesse de se dire évêque de Rome, qui souhaite donner davantage de pouvoir aux évêques dans l'Église et qui veut précisément sortir l'Église de l'hypertrophie du magistère. Et les premiers ennemis du pape sont à l'intérieur même du Vatican, puisque le pape, par son caractère et ses réformes, s'est mis à dos la quasi-totalité des employés du Vatican et une grande partie de la curie qui attend, selon l'expression d'un autre vaticaniste, Marco Politi, son départ.
Est-ce que le livre de Lavessière dit la même chose ?
Alors oui, je pense que les deux auteurs sont sur la même longueur d'onde, mais quand le livre de Virginie Riva est une enquête journalistique centrée sur le Vatican, celui de Jean-Louis Lavessière apparaît aussi, j'allais dire, comme un acte de foi. Dès les premières pages, il écrit « C'est le troisième essai que j'écris sur la religion de mon baptême, une religion que j'essaie d'honorer, pour son humble grandeur et son intelligence. » Alors, ne vous méprenez pas, ce livre n'est pas un livre de spiritualité. Il s'agit d'une enquête, fruit de 5 années d'expérience de Lavessière à Rome. Lavessière offre en fait une réflexion globale sur le catholicisme à travers le monde, sur fond de culture occidentale relativiste et consumériste. Il fait un état de ses forces, de ses faiblesses. Il décrit les acquis du pontificat de Jean-Paul II et de Benoît XVI et défend l'action de François. Il évoque bien évidemment les oppositions au pape, souligne les quiproquos. Il s'attarde notamment sur le malaise des catholiques européens, mais aussi des conservateurs américains en face de ce pape dont le style, les codes et les références ont bouleversé la charge pontificale. Alors, Lavessière fait une sorte d'inventaire du catholicisme dans le monde. En près de 200 pages, il jauge les acquis, les attentes, les enjeux et les espérances avec force détail. Enfin, il termine en mesurant, un chapitre très important, l'influence diplomatique du pape François, car à la différence de Benoît XVI, François est d'abord un pape politique.
Mais ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'Église qu'un pape rencontre des oppositions.
Bien évidemment, ce n'est pas la première fois. Tous les papes ont dû faire face à des oppositions internes. Vous savez, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, des bons fruits et des mauvais fruits qui sortent pourtant de la même terre. Alors si l'on devait comparer François avec un pape dans l'histoire, je vais être un peu provocateur, je dirais que ce serait à mon sens Pidis. Même opposition et même fossé avec la curie, Pidis était appelé le pape des pauvres, il ne supportait pas de passer à table seule, il invita les Romains à assister à sa messe quotidienne et il rejetait toute expression de la richesse du Vatican. Pidis fit lui aussi une réforme de la curie, à côté de laquelle la réforme du pape François est un simple toilettage. Il lança aussi une réforme, Pidis lança aussi une réforme du droit canon, mais la comparaison s'arrête là, parce que les deux hommes ont justement une ecclésiologie et une vision de la modernité totalement différentes. Pidis et le code de droit canon, qui sera publié pendant la Grande Guerre de 14, sont l'expression de la monarchie pontificale que rejette précisément François. Premier éclairage, historique. Deuxième éclairage historique, il me semble aussi intéressant de voir que quand un président de la République est élu en France, il possède une sorte d'état de grâce pendant les 100 premiers jours. Les papes, eux, ont bien plus, parce que le temps de l'Église n'est pas le temps du monde. Ils ont, je crois, c'est une hypothèse que je lance, ils ont 3 années à leur profit. Les 3 premières années donnent le ton du pontificat, ses enjeux et ses propres limites. C'est très net pour Jean-Paul II et pour Benoît XVI. Or, pour François, Virginie Riva montre bien que c'est le synode sur la famille en 2014 et 2015 qui a commencé à provoquer un séisme dans l'Église. Et c'est au lendemain du synode, donc dès 2016, qu'une opposition s'organise. Dernière leçon historique, on croit que tout est nouveau alors que nous repassons par les mêmes chemins par lesquels nos ancêtres sont passés. L'idée de réforme n'est pas nouvelle dans l'Église. L'idée aussi des limites du pouvoir pontifical, on va dire qu'il s'agit même d'un vieux débat qui date de plus de 15 siècles, mais il se traduit, ma foi, de façon différente à chacune des époques, ce qui fait bien évidemment la richesse de l'histoire de l'Église. L'élément nouveau, essentiel en revanche, à notre époque contemporaine, est bien sûr la surmédiatisation des questions religieuses, mais la centralisation de l'Église est un phénomène aussi assez récent, un peu plus d'un siècle et demi, soit très très peu dans l'histoire de l'Église.
Il existe toujours une opposition entre les progressistes d'une part et les conservateurs d'autre part aujourd'hui au Vatican, les premiers pour le pape et donc les seconds contre.
Alors, je pense que cette lecture conservateur contre progressiste est trop simpliste dans les oppositions au pape. Oui, les conservateurs américains, par exemple, reprochent au pape son peu d'investissement sur les questions relatives à la défense de la vie. Les catholiques africains ont été marqués par les débats sur l'homosexualité au moment du synode. En France, c'est la question de l'accueil des migrants qui a provoqué des remous. L'Église du silence dans la Chine communiste se pose aussi des questions sur la politique de François à l'égard des autorités du pays, exactement comme on se posait des questions dans les années 60 et les années 70 sur l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique à l'égard de l'Est de Jean XXIII et de Paul VI. Mais il existe par ailleurs chez François une radicalité spirituelle qui ne plaît absolument pas à l'aile gauche de l'Église. François parle beaucoup, par exemple, de la confession. Il parle beaucoup du péché, du diable. Or, on n'en parlait pas ou peu depuis des décennies. Il y a aussi chez François la volonté de développer une piété populaire qui longtemps a été rejetée par l'aile gauche, l'aile gauche intellectuelle de l'Église. Le culte des images, le culte de la Vierge Marie, par la récitation du chapelet, tout cela appartenait pour cette aile gauche de l'Église au passé, c'est-à-dire au piétisme du XIXe siècle. Or, François veut assurer la promotion de cette piété populaire, il ne s'en cache absolument pas. François souhaite enfin réintégrer dans l'Église les traditionalistes de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis, chose que n'a pas su faire Benoît XVI.
Alors, le pape va-t-il réussir ?
Eh bien, c'est une grande question, et cette question, Virginie Riva la laisse en suspens, parce que nous serions bien en peine pardon, de pouvoir y répondre. Elle donne néanmoins un élément de réponse dans son livre. Elle nous explique, elle a interviewé un des plus grands canonistes italiens qui s'appelle Carlo Fantapier. Et Carlo Fantapier explique que tous les papes ont besoin, à un moment ou un autre, d'une légitimation du changement. S'ils n'ont pas cette légitimation, eh bien les changements ne perdureront pas. Donc c'est ce grand défi de la légitimation dont ne bénéficie pas encore François, qui nous permettra de dire dans quelques années si le pape François a réussi ou non à changer ou à marquer l'Église. Mais de manière générale, vous savez, en dehors de Jean-Paul II, qui a un règne extrêmement long, et de quelques grandes figures pontificales dans l'histoire des siècles, il est très difficile pour un pape de sortir en quelque sorte du lot de cette longue succession apostolique en marquant son temps. Je vous remercie.
Bah, merci à vous.
Donc, Ce pape qui dérange, Virginie Riva aux éditions de l'Atelier, et François dans la tempête, Jean-Louis de la Vessière aux éditions Salvator. Merci beaucoup, et je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour une nouvelle chronique de Julien de Rubempré qui sera consacrée aux femmes, si je ne me trompe.
Les femmes dans l'histoire, exactement.
Merci beaucoup, et restez fidèles à Storia Voce.